Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Radio Foot où l'ombre de la Ligue des Champions va commencer à planer de plus en plus. À mesure que l'on approche des huitièmes de finale retour programmés vendredi et samedi et du Final 8 qui débute dans une semaine maintenant à Lisbonne. Parmi les clubs concernés, le Napoli de Kalidou Koulibaly et le PSG d'Idrissa Gana Gueye, le défenseur et le milieu de terrain du Sénégal, vice-champion d'Afrique, terminent une saison en club en demi-teinte, on va dire. Et pour faire le point sur leur situation, eh bien nous avons à nos côtés dans ce studio numéro 1 Yoro Mangara. Bonjour Yoro.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Avec nous également Xavier Barré. Bonjour Xavier.
Bonjour Christophe, bonjour Yoro, bonjour à tous.
Et notre invité Alexandre Taillez, supporter du Racing Club de Lens. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous publiez un livre témoignage de vos années de supporterisme derrière les Sangs et Or, les Lensois, donc un club où être supporter veut dire beaucoup. L'Opéra du Peuple, c'est le titre, et vous l'expliquerez ce titre dans cette émission. Vous êtes un supporter plutôt heureux, j'imagine, avec le retour qui s'annonce en Ligue 1.
Très heureux, très heureux.
Même si vous n'êtes plus aussi assidu au stade ces derniers temps,
si j'ai bien compris. Ça, je suis un expatrié désormais, bon. Mais toujours aussi passionné.
Expatrié en région parisienne. Au sommaire également, et ce ne sera pas le moindre de nos sujets, Cristiano Ronaldo, ni meilleur buteur, ni meilleur joueur de la Serie A cette année. Forcément, quand on s'appelle CR7, c'est énervant. Alors pourquoi le Portugais ne s'épanouit-il pas cette saison à la Juventus de Turin? Pourrait-il repartir ailleurs, plus à l'ouest, sur le continent? Nous en débattrons dans Radio Foot, ce Radio Foot préparé avec le Réfé et avec Laurent Salerno. Nous sommes ensemble pour 45 minutes, plus le temps additionnel.
Moi j'ai toujours eu du respect pour eux, ils ont toujours eu du respect pour moi, c'est vraiment des supporters qui sont derrière moi, ils m'ont toujours donné l'amour depuis le premier jour que je suis arrivé ici, donc moi j'essaie de leur rendre sur le terrain.
Là devant c'est Koulibaly, c'est un duel de costaud.
Koulibaly qui est vraiment fébrile depuis l'entame de cette rencontre, c'est assez étonnant comme comportement, complètement à côté de la plaque là. Koulibaly, il a hésité dans tout ce qu'il a entrepris, ensuite il tombe.
Il y a un an, il était sacré meilleur défenseur de la Serie A. Mais pour Kalidou Koulibaly, eh bien, la saison qui s'achève n'a pas été du même niveau que la précédente. Hein. Comment vous pourriez la qualifier cette saison, Yoro Mangara?
Très moyenne de la part de Kalidou Koulibaly. Quand on connaît tout ce qu'il a comme talent, parce que il a été énorme il y a un an. Après, ça s'explique. Hein. Il est passé d'une CAN où il rate déjà la finale. Il perd la finale parce qu'il n'a pas joué. Il a eu un cumul de cartons. Je pense que j'ai eu des échos dans le vestiaire qu'il n'était pas heureux du tout de ne pas pouvoir jouer cette CAN, cette finale, parce qu'il se disait qu'il pouvait donner cette Coupe d'Afrique, cette première au Sénégal. S'il était peut-être dans le terrain, on n'aurait pas pu ce but face à l'Algérie. Il revient en championnat sans une préparation parce que c'était la première CAN qui se joue en juin-juillet. Il n'a pas fait une préparation énorme, il revient, il enchaîne Ligue des Champions, championnat, et je pense aussi qu'il perd Albiol qui a été énorme avec le Real de Madrid, qui était son mentor dans cette équipe qu'il avait accueilli, il venait d'un championnat mineur entre guillemets, le championnat belge. Il perd, ça fait déjà beaucoup. Entre temps, le Napoli n'a pas été énorme sur le terrain.
C'est vrai que c'est un peu à l'image sa prestation de la saison entière du Napoli, qui termine 7e seulement, Xavier, de cette saison.
Mais absolument, absolument. En fait, il est un peu victime des errements de Naples toute cette saison, lui comme les autres. C'était le pilier de l'équipe, mais... Quand, et Yoro Mangara l'a très bien souligné, une charnière centrale, ça se travaille, c'est des Exactement. Automatismes. Ça fait combien d'années qu'il était avec Raoul Albiol?
4 ans minimum.
Voilà. Donc, et là, du jour au lendemain, il doit composer avec Stelios Manolas, le grec, qui est un très bon défenseur. Mais voilà, il faut recréer des automatismes, et ça, c'est très compliqué. Qui plus est, quand vous changez d'entraîneur en cours de saison, vous changez de système de jeu, vous essayez avec Ancelotti d'abord, après il s'en va, après il y a
Gattuso
qui arrive, on sait que c'est pas tout à fait fait le même mode de fonctionnement, même pas du tout. Donc là-dessus, on peut rappeler aussi la grève, les relations compliquées avec le président. Donc vous vous retrouvez dans une situation délicate. Les résultats le prouvent d'ailleurs. Si le Napoli n'est pas européen au terme de cette saison, eh bien c'est en grande partie parce qu'ils ont pris beaucoup de retard en début de saison. Et ce retard pris en début de saison, plus la rupture liée au confinement, au coronavirus, fait que cette équipe de Naples et Khalilou Koulibaly avec eux, eh bien, ils ont été pas tout à fait aussi performants qu'auparavant.
Vainqueur de la Coupe d'Italie, quand même.
Oui, mais la Coupe d'Italie n'a pas le même prestige que la Serie A. À part l'Angleterre, la Coupe, c'est souvent une compétition de repêchage. Parce qu'en Italie encore, ils essayent maintenant depuis quelques années de lui donner un peu plus de prestige en supprimant les matchs aller-retour, en simplifiant la lecture de cette compétition. C'est vrai que c'était en plus une belle finale qu'ils ont remportée. Mais voilà, c'est pas la Serie A, c'est pas le championnat, il n'y a pas la régularité que réclame une équipe de très haut niveau qui a des ambitions européennes.
Mmh. Oui, Yoro. Oui, je pense aussi que Kalidou Koulibaly n'a pas aimé cette réaction du président De Laurentiis qui voulait mettre toute l'équipe en quarantaine après que les résultats étaient moyens. Et j'ai eu des échos comme quoi il veut quitter Naples. Il voulait le faire il y a un an et il ne comprend pas pourquoi on ne veut pas le libérer. Je pense que tout ça joue sur ses mauvaises prestations.
Ouais, alors il a dit De Laurentiis, le patron, Kalidou Koulibaly est une personne formidable. Je serais terriblement triste de le perdre, mais il y a un temps pour tout, même pour s'éloigner. Seulement, il ajoute qu'il faudra quand même mettre l'argent sur la table.
90 millions d'euros pour un joueur de 29 ans, c'est pas donné. Qui va le mettre?
Ouais, mais c'est ça le gros problème en fait, c'est que Naples tient ses joueurs et les lâche pas. On a vu avec Marek Hamšík qui était le précédent capitaine, recordman des buts marqués sous le maillot du Napoli, qui a effacé Maradona des tablettes. Depuis, Mertens, le Belge, a fait mieux, mais Marek Hamšík, il a pu partir que pour aller en Chine en fait, parce que les Chinois ont de l'argent et puis qu'à ce moment-là, il risquait pas d'aller chez un concurrent. La seule qui a réussi à partir pour aller chez un concurrent, c'est Gonzalo Higuain. Et on sait comment ça a été très mal vécu à Naples, ce départ en catimini du buteur argentin. Donc je pense que De Laurentiis peut pas se permettre de laisser partir un de ses autres joueurs comme ça, de cette façon-là. C'est pour ça qu'il les retient.
Cavani était parti pour 60 millions d'euros. C'était déjà très cher à l'époque. Aujourd'hui, il y a des places.
2012, hein.
Il y a des places qui se libèrent. Hein. Par exemple, le défenseur central Dejan Lovren a déjà quitté Liverpool, donc il y a une place à Liverpool. Thiago Silva pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Entre guillemets, il y a une autre place, mais qui va mettre 90 millions sur un joueur de 29 ans après? Est-ce qu'il y aura une plus-value derrière? Je pense pas. Et je pense que il ne veut pas vendre, il ne le dit pas. Et Kalidou Koulibaly l'a compris, il a essayé de caresser dans le sens du poil son président, en disant qu'il peut rester à Naples jouer toute sa carrière dans ce club, mais je pense que c'est pour caresser le président dans le sens du poil, mais dans son fort intérieur, il veut avoir d'autres challenges.
Oui, déjà l'année dernière, il voulait partir.
Il voulait partir.
C'est normal qu'à son âge, il a envie de vivre autre chose. Maintenant, quand Yoro évoque la plus-value qu'on peut faire en achetant un joueur de 29 ans, quand on parle de clubs comme le Paris Saint-Germain ou Liverpool, ils vont pas ils cherchent pas, eux, à faire des plus-values. Ce sont pas des clubs comme Monaco, comme d'autres qui sont des clubs tremplins, qui spéculent sur la qualité des joueurs. Là, Liverpool, s'ils investissent sur Kalilou Koulibaly, ils mettront l'argent qu'il faut, comme ils l'ont fait pour Virgil van Dijk, qui est pas tout jeune non plus, puisqu'il a déjà 28 ans.
27 ans. Ouais, il avait donc, 27 à l'époque.
Voilà. Donc on est à peu près dans la même tranche d'âge, en fait. Et pour un défenseur, investir, alors 90 millions, c'est énormément d'argent, mais bon, vous êtes à 80 pour Maguire, pour van Dijk. Bon, peut-être qu'en négociant, ils arriveraient dans les mêmes eaux pour Kalidou Koulibaly, parce que le marché est quand même un peu plus tendu. Peut-être que Naples lâchera un petit peu. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, à ce prix-là, si vous voulez un grand défenseur, c'est ce prix-là qu'il faut payer.
Manchester Donc, United et Manchester City seraient également intéressés. Est-ce que ça peut se faire compte tenu du casting dans ces deux clubs?
Je pense que United en a besoin, puisqu'ils ont énormément misé sur Maguire, mais c'est un joueur très lent. contrairement à Kalidou Koulibaly qui est très rapide et qui est à l'aise sur les deux pieds. Mmh. Et je pense que c'est, il est plus moderne que Maguire qui est un défenseur à l'ancienne, qui peut aller au charbon. Qui
oui,
peut...
on dit souvent que Maguire c'est un petit peu le maillon faible de cette équipe de United.
De United, donc je pense que
enfin, faible
entre guillemets. Ouais. Mais il pourrait faire du bien et à City qui n'a pas une bonne défense et à Manchester United.
Je suis pas tout à fait d'accord avec Euro. Je pense que oui, forcément, un défenseur de la qualité de Khalilou Koulibaly, il va renforcer, il rend service évidemment. Mais s'il va dans un club, c'est pour être titulaire. Or actuellement, à Manchester City, le défenseur liche de cette équipe, c'est Aymeric Laporte. C'est le joueur le plus important. Et si Manchester City a fait une moins bonne saison, c'est parce que Laporte a été longtemps blessé.
Donc, elle a perdu Laporte au Koulibaly.
Pourquoi pas? Mais maintenant, s'il va à Manchester United, je pense pas que ce soit pour prendre la place de Maguire. C'est pour jouer avec lui. Or, actuellement, mais il y a d'autres joueurs, mais effectivement, qui sont pas du même niveau, que ce soit le Suédois, que ce soit Eric Bailly, l'Ivoirien. Il y a un effectif très riche à Manchester United, mais il n'y a pas le même niveau pour composer une charnière centrale avec Maguire. Donc, est-ce que Maguire et Koulibaly, c'est compatible? Peut-être. Faut voir. Mais il faudrait effectivement que Koulibaly joue de l'autre côté, qu'il joue côté droit.
Côté droit.
Puisque jusqu'à présent, il joue plutôt axe gauche. Ça voudrait dire une réadaptation dans un nouveau club. Pourquoi pas?
Alors, dans la saison de Kalidou Koulibaly et de Naples, la saison n'est pas tout à fait terminée, hein, puisqu'il y a quand même un petit match à jouer vendredi contre le FC Barcelone, et que ça a donné un partout au match aller de ce huitième de finale de Ligue des Champions au San Paolo. Est-ce que ce match retour qui se profile, avec deux clients qui s'appellent Messi et Griezmann en face, par exemple, ça peut changer le dénouement de cette histoire de transfert.
Je pense déjà qu'il a été énorme face à cette même équipe du FC Barcelone à l'aller. Il avait muselé entre guillemets Léo Messi, même si on a vu après que sur le but, il était fautif, il prend ce petit crochet. Mais je pense pas que ça pourrait relancer le transfert de Kalidou Koulibaly, puisque le Covid n'aidant pas, je ne vois pas un club qui pourrait mettre aujourd'hui 90 millions d'euros sur un défenseur central. Je pense pas.
Xavier?
Ça encore une fois, on a évoqué Manchester City. Pour eux, c'est pas un problème, d'autant plus que la décision du TAS de lever la sanction de l'UEFA les libère un peu de ce point de vue-là. Mm-hmm. Mais pour en revenir au match aller entre Naples et Barcelone, il faut rappeler une chose, c'est quand même que le Barça avait vraiment dominé et la défense de Naples avait été extrêmement bien protégée par le milieu de terrain napolitain qui avait fait un match incroyable, notamment Fabian Ruiz qui avait été exceptionnel, et ils avaient coupé toutes les lignes d'approvisionnement à Messi. Et c'est là, effectivement, et notamment, ils allaient chercher Sergio Busquets très haut, et le Barça, au cours de la première période, a complètement déjoué, et finalement, ils ont eu du mal à revenir au score en deuxième période, mais ça a été un grand succès tactique de Naples et de Gennaro Gattuso, qui ne nous avait pas habitués à ce genre de succès tactique. Mais ça prouve que c'est un entraîneur qui mûrit. Donc du coup, on se retrouve avec un match retour extrêmement ouvert, parce que cette équipe napolitaine, elle arrive, alors, on va pas dire en pleine possession de ses moyens, parce qu'effectivement, elle a fait une fin de championnat qui est pas celle qu'on espérait, mais eux, ils sont dans le rythme de la compétition. Alors que le championnat d'Espagne est fini déjà depuis 15 jours. Mmh. Donc, comment les Barcelonais ont pu entretenir le rythme pour être performants? Là, il y a un vrai décalage entre les deux équipes. C'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout perdu pour Naples.
Ouais. Et on aura la même problématique sur les interrogations autour des états de forme entre le PSG et l'Atalanta Bergame, mais ça sera un peu plus tard, en quart de finale contre le 12 août, entre ces deux équipes.
Ou même Christophe, si je peux me permettre, entre Chelsea et le Bayern, par exemple.
Ouais, par exemple.
Chelsea vient
mais
de
là,
jouer
une finale c'était pas du tout ma transition.
Pardon. Alors, je me tais.
Je voulais en venir au Paris Saint-Germain, mais vous avez raison.
Ah bah oui.
Au Paris Saint-Germain et à la situation d'Idrissa Ganagay. Idrissa Ganagay, dont l'arrivée au PSG l'été dernier avait fait naître beaucoup d'espoir. Il devait être le milieu de terrain qui manquait au PSG. On annonçait que ses stats étaient au moins aussi bonnes en Première Ligue que celles de N'Golo Kanté. Alors, on a eu l'illusion que ça allait être un triomphe avec ce match de Ligue des Champions en septembre contre le Real Madrid. Victoire 3-0 pour le PSG avec un superbe match, notamment d'Idrissa Gueye. Et à l'époque, son entraîneur Thomas Tuchel disait ça.
Il est en machine, hein. Il n'arrête pas, il n'arrête jamais de courir, il fait beaucoup de récupérations, il gagne beaucoup de ballons contre une équipe que comme Real, c'est super important. Et je dois aussi dire, c'était un bon mix aujourd'hui entre les trois, Marquinhos, Marco et lui. C'était très très fort, avec beaucoup d'intensité et un bon mix avec beaucoup de possession de ballons. Et les trois ont fait un grand match très très bien et sont vraiment fatigués, je pense, et c'était bien.
Voilà, ça c'était avant Thomas Tuchel. Et puis il y a le Thomas Tuchel qui parle d'Idrissa Gueye, version vendredi dernier. Là, on est après la finale de la Coupe de la Ligue. Comme une semaine plus tôt, en finale de la Coupe de France, il a été titulaire, Gueye, mais il n'a pas été bon. Et là, le commentaire de son entraîneur, Thomas Tuchel, est très différent.
J'ai l'impression que peut-être il ne joue pas assez libre, pas assez avec la meilleure confiance. Il est important pour nous. On a aujourd'hui fait un échange avec Ander, parce que Ander, il est habitué de jouer pour Man United. Il est habitué de jouer des finales, jouer pour Man United. Ça veut dire que tu as toujours pression, toujours. Tout le monde attend que tu gagnes. Peut-être c'était un peu plus facile pour lui de gérer avec la pression. Ghana, il a fait des grands matchs pour nous contre Real, contre Dortmund, le match retour. Et j'espère vraiment qu'il est prêt contre Atalanta.
Voilà, c'est une finale qui est un petit peu à l'image de la saison d'Idrissa Gueye qui est décevante. Comment expliquer ? Alors, vous allez me dire, Yoro, que Idrissa Gueye a aussi commencé la saison un peu fatigué par cette campagne africaine à la CAN.
Mais pas que. Je pense aussi que Gueye et le PSG ne sont pas compatibles, en fait. Ah. Gueye est un joueur qui aime harceler, qui aime presser, qui aime récupérer le ballon. PSG, à part contre les grandes équipes, Real, machin, le PSG a 90% du temps le ballon. Et donc, il peut errer dans le terrain parce que il ne va pas récupérer le ballon. Le ballon, ils l'ont déjà. Et techniquement, c'est pas Verratti, c'est pas Thiago Motta. Et pour beaucoup, quand il venait, il allait jouer comme sentinelle. Alors qu'il a toujours été relayeur en équipe du Sénégal, avec Everton, à Aston Villa. C'est un joueur qui aime presser, récupérer, aller au contact. Alors qu'au PSG, ils ont tout le temps le ballon. Face au Real, il a été bon. Face à Dortmund adore avoir le ballon. Au retour, il l'a été. Et je pense que quand ils joueront face à des équipes où le PSG n'a pas le ballon, Idrissa Gueye va rayonner. Mais tant qu'ils auront le ballon, il ne sera pas bon.
Xavier, est-ce que quand on entend Thomas Tuchel dire « il ne joue pas libre », qu'est-ce qui s'est passé entre le Gueye de septembre dernier et celui que l'on a vu vendredi dernier au Stade de France?
Je trouve l'analyse de Yoro Mangara très intéressante. D'ailleurs, je la partage parce qu'effectivement, c'est un joueur qui est pas habitué et lorsqu'il était à Everton, on le voyait rarement dans cette situation également, à faire le jeu, à prendre l'initiative du jeu. Et quand un joueur du PSG est en Ligue 1, ils ont le ballon, ils ont tout le temps le ballon. Donc, il est moins indispensable au PSG dans ce rôle de harceleur, de récupérateur infatigable qu'il a pu l'être à d'autres clubs auparavant, à Lille bien sûr, et puis à Everton qui était une équipe en construction, qui avait besoin de lui pour justement contrer les grosses écuries de la Première Ligue. Donc là, c'est vrai que parfois on se demande un peu s'il n'est pas perdu. Alors, est-ce qu'il y a trop de consignes? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les joueurs du PSG, enfin, on avait l'habitude de dire qu'ils s'auto-géraient. C'était tous des éléments d'expérience qui savaient comment il fallait faire. Est-ce que lui a besoin d'être plus guidé? Est-ce que du coup, le fait qu'il ait trop de consignes le bride dans son expression, dans sa prise d'initiative? J'avoue, je suis un peu perplexe, effectivement, par cette situation.
Ce côté bridé, justement, qui apparaît dans l'analyse de Thomas Tuchel, c'est aussi l'analyse que Raymond Domenech fait dans le quotidien sénégalais, l'Observateur. Il a parlé du cas d'Idrissa Gueye et ce qu'il dit, vous allez voir, c'est très proche de ce que dit Tuchel. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est que Ghana ose moins. Ce qui est toujours difficile dans les grands clubs avec la concurrence, c'est de trouver sa place. Il est beaucoup plus restrictif, plus bas. Il s'est complètement mis au service des autres en oubliant ce qu'il est capable de faire. Donc, on lui reproche de ne pas se projeter davantage vers l'avant.
Et je pense que depuis qu'il est au PSG, des fois c'est en 4-3-3, des fois c'est en 4-4-2. Il est beaucoup plus à l'aise dans un 4-4-2, pas dans un 4-3-3. Alors que je pense que pour la dernière finale face à Lyon, c'était en 4-3-3, puisque Mbappé n'est pas là.
Ouais, c'était avec Marquinhos et Verratti au début. Exactement d'ailleurs le même milieu à 3 que contre le Real Madrid en septembre.
Oui, à part que quand il a Marquinhos, Marquinhos est là pour verrouiller le milieu. En fait, c'est Marquinhos qui occupe le poste d'Idrissa Gueye. Donc du coup, il se retrouve obligé de monter un petit peu d'un cran. Et à l'évidence, il n'a pas le même registre que Verratti ou que Rabiot ou Matuidi avant. Donc il est un peu en porte-à-faux, je pense.
Ouais. Ouais. Donc, en fait, on se demande au point où on en est si il pourrait avoir un rôle à jouer contre l'Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions.
Bah, ça dépend du choix que fera Thomas Tuchel au niveau de son 11 de départ. Mais c'est vrai que s'il repositionne Marquinhos en charnière centrale, à ce moment-là, à la place d'Idrissa Gueye, elle est là, toute trouvée devant. Mais bon, il y a aussi Paredes qui est là. Mais bon, Paredes, justement, a, je pense, cette capacité à se projeter vers l'avant, puisque c'est un ancien numéro 10 que n'a pas forcément Idrissa Gueye.
Bon, il reste une semaine pour réfléchir et se décider avant ce match entre l'Atalanta et le Paris Saint-Germain.
Ronaldo! Il raddoppio della Juventus! CR7! Cristiano Ronaldo! Un gol strepitoso! 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 Del più forte giocatore del pianeta! 2-0! Ma che gol ha fatto Cristiano!
Strepitoso, c'est quelqu'un parle italien. Bon, alors, on le sait tous, il n'y a que la première place qui intéresse Cristiano Ronaldo. S'il n'est que deuxième, il est au mieux très agacé. Et donc, la saison qui s'achève en Italie le laisse forcément sur sa fin, puisque, bah, on en parlait tout à l'heure, le meilleur défenseur du championnat d'Italie, ce n'est pas Koulibaly, c'est De Vrij de l'Inter, mais d'autres récompenses individuelles ont été attribuées. Donc, le meilleur joueur, c'est Paul Dybala, l'Argentin. Et le meilleur buteur, c'est Ciro Immobile de la Lazio. Et ça ne peut pas plaire à CR7, n'est-ce pas, messieurs?
Non plus. Parce que le gars, il veut tout gagner. Cette année, il remporte le Scudetto, ok. Mais derrière, il n'est pas meilleur buteur, il n'est pas meilleur joueur. On oublie vite, mais il y a deux ans, qui a gagné le Ballon d'Or? C'était Luka Modric. Il était partenaire au Real, mais il n'est pas venu à la cérémonie, puisque le monsieur n'a pas aimé être second ou troisième. Mmh. Il veut toujours gagner. Donc, s'il reste à la Juve cette année, ça m'étonnerait, puisque s'il reste à la Juve, le patron de la Juve sera Paulo Dybala et non Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo veut toujours être le maître.
Alors, je ne sais pas si Yoro Mangara a une ligne directe avec Jorge Mendes pour annoncer le départ déjà de Cristiano Ronaldo. Moi, j'attends de voir. Mais c'est certain que oui, il n'a pas cet objectif, cette reconnaissance à laquelle il estime avoir droit. Parce que pendant toutes ces années à Madrid, ça a été le numéro un. Même Zidane l'avait dit, Cristiano, il est à part, c'est le numéro un. Et il joue tel qu'on accepte qu'il joue parce qu'il marque des buts. Et à la Juventus, il n'a pas le même statut. Il est venu effectivement pour gagner la Ligue des Champions. Il est venu aussi, il faut le rappeler, parce que Florentino Pérez l'a laissé partir, n'a pas voulu rentrer dans son chantage lorsqu'il a demandé à ce que le Real Madrid règle ses taxes, enfin ses amendes fiscales. Donc du coup, il se retrouve à la Juve qui a saisi l'opportunité, comme ils le font souvent, de prendre des joueurs qui sont en fin de contrat ou qui sont, disons, en rupture dans leur club. Mais à la Juve, il y a une institution. Il y a des choix stratégiques qui ont été faits. On a pris Maurizio Sarri comme entraîneur pour avoir une équipe plus joueuse. Et à l'évidence, Cristiano Ronaldo, ça lui convient pas tout à fait. Donc moi, je comprends qu'il soit effectivement très frustré de cette situation. Mais il y a une chose qu'il faut pas qu'il oublie, c'est qu'il a 35 ans maintenant. Donc il a un âge où il peut moins imposer ses conditions que quand il en avait 25.
Ouais, il a 35 ans, mais il est toujours aussi affamé de et en plus, c'est comme si il était dans un compte à rebours. Il intégrait le fait que il ne lui reste que quelques années pour aller chercher encore d'autres trophées et d'autres distinctions individuelles et que finalement l'âge accélère encore, accentue encore sa motivation.
Sa motivation et sa nervosité peut-être aussi, parce qu'on a vu lors des derniers matchs de Serie A, on a vu des gestes d'énervement qui sont pas très compatible avec un esprit collectif. Et c'est ça, moi, qui me choque le plus. C'est que Cristiano Ronaldo, on a le sentiment qu'il est venu à la Juventus pour achever son œuvre individuelle et que, à la limite, il se soucie moins du collectif. Or, Maurizio Sarri, lui, c'est le collectif avant tout. Donc, il y a une incompatibilité de conception ou de choix stratégique. Et je comprends que ce qu'évoquait Yoro Mangara tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir qu'il quitte la Juventus pour trouver un club où on l'acceptera plus avec ses ambitions personnelles. Mais j'en suis pas convaincu.
Et il faudrait aussi, à un moment ou un autre, que les dirigeants de la Juve pose le pour et le contre. Avant, ils ont fait deux finales sans CR7. Depuis qu'il est là, ils sont maxi quart de finale. Est-ce que c'est le joueur qui pourra faire passer la Juve ce cap et remporter enfin une Ligue des Champions? La dernière, c'était en 1997, si je me trompe. Même Zidane n'a pas pu la remporter avec la Juve. Je pense pas que actuellement, à 35 ans, que ce soit ce joueur qui puisse faire passer ce cap à la Juventus de Turin. Il a marqué des buts, mais si on prend le nombre de buts inscrits cette saison en Serie A de Cristiano Ronaldo, on enlève les pénaltys, il en reste.
Oui, il a. Alors Thierry Marchand, notre confrère de France Football, signe cette semaine, dans le numéro de cette semaine, un papier sur le cas Cristiano Ronaldo. Et Thierry Marchand connaît bien Cristiano Ronaldo et son entourage. Il le pratique régulièrement depuis des années. Il le voit régulièrement aussi à l'occasion du Ballon d'Or, qu'il a gagné 5 fois, le Portugais, contre 6 pour Lionel Messi. Et dans ce papier, eh bien le titre, c'est « Paris ». En tête, Paris Saint-Germain. Hein. Et Thierry Marchand relate une scène qui remonte à octobre dernier, où en fin de soirée à Turin, Cristiano Ronaldo s'était laissé aller à s'imaginer dans un parc des Princes avec la forte communauté portugaise de la région parisienne qui serait présente en nombre dans les tribunes avec dans son équipe un certain Neymar et un certain Mbappé. Bref, ça paraissait comme quelque chose de possible. Est-ce que après tous ces mois qui sont passés, c'est une hypothèse qui vous fait sourire ou bien est-ce que ça peut être parfaitement et sérieusement envisagé?
C'est pas tout à fait nouveau, hein, Cristiano Ronaldo au PSG. Ça a déjà été évoqué quelques fois.
Depuis qu'il avait murmuré à l'oreille de Laurent Blanc
ouais.
À la fin d'un match.
Ça a déjà été évoqué, mais moi je crois qu'aujourd'hui le PSG version Leonardo a bâti un autre projet avec Kylian Mbappé et Neymar en tête d'affiche. Donc où positionner Cristiano Ronaldo dans ce projet-là? Alors bien sûr, hein, sur le terrain, un joueur de son talent, on peut toujours lui trouver une place. Mais il n'y a pas que le terrain qui compte. Il y a aussi toute une stratégie de communication. Je vois pas trop où il s'intégrerait dans ce projet-là, à moins qu'il accepte de venir dans un autre rôle, un peu comme le rôle qu'a eu Beckham lorsqu'il est venu, c'est-à-dire un rôle alors je vais pas dire pré-retraité parce que ça, pour le coup, il l'acceptera pas, mais une espèce de rôle de grand frère pour Mbappé, par exemple, et pour à ce moment-là utiliser sa notoriété, son expérience au service des plus jeunes. Mais ça me paraît quand même très difficile à mettre en place.
Yoro, je pense que déjà la masse salariale du Paris Saint-Germain, on l'a beaucoup, beaucoup abaissée, puisque Thiago Silva est parti, Cavani est parti. Donc il y a de la marge pour pouvoir payer le salaire de Cristiano Ronaldo. Mais sur le terrain, on va le mettre où? Déjà qu'il n'aime pas jouer avant-centre, il veut toujours jouer sur le côté. Sur le côté, il y a déjà Neymar. Mbappé, Icardi, ça fait déjà trop. Je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas intérêt pour l'instant à le prendre. Après, il est bankable. Si le PSG perd Mbappé ou Neymar, ça peut arriver, il pourrait essayer de prendre un Cristiano Ronaldo pour vendre. Parce que ça vend, Cristiano Ronaldo, ça vend toujours et ça vendra toujours.
Ça coûte cher en salaire, mais Ronaldo est aujourd'hui beaucoup moins cher au niveau du transfert qu'il ne l'était il y a quelques années,
forcément. Avec 70 millions, la Juve va libérer Cristiano Ronaldo.
Ah, évidemment. Non, mais si c'est pour remplacer Neymar ou Mbappé, oui, évidemment. Mais est-ce que le PSG a intérêt à remplacer un joueur exceptionnel de 22 ans ou un autre de 28 par un gars de 35? Très franchement, j'ai des doutes. Même si sa notoriété est colossale, ce serait pour faire un coup à la Beckham, je dis pourquoi pas, mais pour retrancher les valeurs vives qu'ils ont actuellement, sur lesquelles ils ont déjà beaucoup investi et sur lesquelles ils communiquent énormément, franchement, j'ai du mal à y croire.
Et Thierry Marchand, dans l'article dans France Football, souligne combien il reste quand même très performant, parce que si on ne prend que depuis le début de l'année civile 2020, eh bien, il est tout simplement le meilleur buteur en Europe, toutes compétitions confondues, devant Lewandowski et Immobilier. Alors évidemment, Comme vous le disiez d'ailleurs, Yoro, il y a beaucoup de tirs au but. Sur les 23 buts, bah, il y a 10 pénaltys et un coup franc. Mais quand même, il continue de peser statistiquement, Cristiano Ronaldo, qui espère bien aller égaler Messi l'année prochaine pour
un sixième ballon d'or. Et ça le remet à l'année prochaine, puisqu'il n'y en aura pas cette année.
Ce qui fait aussi sa déception. Dans moins de 3 semaines maintenant, c'est la reprise de la Ligue 1. Mais les cas de Covid inquiètent. Ils inquiètent et ils perturbent aussi la préparation de cette reprise. Un match amical dans le viseur, celui qui a opposé le 28 juillet Strasbourg à Montpellier. Depuis, Strasbourg a dénombré 9 joueurs positifs. Ce qui fait que le match amical qui était prévu contre Reims samedi a été annulé. Les joueurs ont été placés en quatorzaine et la préparation revue par l'entraîneur qui est obligé maintenant de faire des petits groupes. Et ce sera compliqué d'être au point pour débuter la Ligue 1. Alors, ce n'est pas un cas isolé. Il y a eu un cas positif aussi suite à ce match côté Montpellier-Reims. Et puis, il y a 4 joueurs à Lille. Il y en a eu à Guingamp aussi, où le groupe professionnel a été mis en quarantaine. Est-ce que tout ça jette une menace pour vous sérieuse sur la reprise dans 2 semaines et demie du championnat de France de Ligue 1, Xavier?
Menace sérieuse, ça peut... Non, je pense pas sur la reprise en elle-même, mais ça peut la perturber, cette reprise. Parce qu'évidemment, si vous avez des équipes qui ont la moitié de l'effectif sur le flanc, ça va être compliqué de leur demander de jouer. Surtout que les effectifs en France, on sait, en Ligue 1, n'ont rien à voir avec ceux de la Première Ligue. Donc je pense que c'est un vrai sujet d'inquiétude. Ce qui est curieux quand même, c'est que malgré toutes les précautions qui ont été prises, les protocoles qui ont été savamment élaborés, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui à 15 jours, 3 semaines du coup d'envoi de la saison. Donc on va voir comment ça se gère. On a vu que certains clubs estiment que les protocoles sont trop restrictif.
Comme à Nantes.
C'est le cas du président Kita qui l'a déclaré hier pour le FC Nantes.
Lui, il demande un assouplissement des mesures.
Oui. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez un cas, un joueur qui a le Covid dans votre équipe, vous devez normalement écarter tous les cas contacts. Mm-hmm. Donc, ça veut dire tous les coéquipiers, en gros. Parce que même si il y a des mesures de précaution qui sont prises, ils se croisent dans le vestiaire, ils se croisent sur le terrain, et même si ils se crachent pas dessus, il y a toujours ce soupçon de transmission du virus. Donc lui, il dit non, il faut juste écarter les joueurs malades. Donc j'avoue, je préfère laisser ce débat aux médecins, mais c'est vrai que il y a une réelle inquiétude, mais je pense pas qu'il y ait de danger.
Yoro, je rejoins Xavier. Je pense que ils n'ont pas intérêt à ne pas reprendre la Ligue 1, puisque déjà, c'est le seul championnat qui n'a pas repris. Comment les autres ont fait pour arriver enfin à reprendre et jouer la totalité de la saison? Aujourd'hui, ils ont encore 2 voire 3 semaines pour pouvoir se préparer, tester tout le monde, mettre les joueurs en quarantaine pour qu'ils puissent s'entraîner sans qu'ils soient en contact soit avec leur famille, soit avec le monde extérieur. Ça, c'est possible. Il reste 3 semaines. Donc moi, je me dis que la Ligue et tous les clubs de Ligue 1 ont intérêt, et les dirigeants eux aussi ont intérêt, que la Ligue 1 redémarre. Après, avec ou sans public, on ne sait pas, mais au moins qu'il y ait du foot.
Oui, on devrait avoir dans la semaine du nouveau sur les 5000 spectateurs, qui est la jauge maximum pour le moment, mais avec dérogation préfectorale localement possible à partir de la mi-août. Donc ça va être précisé en principe cette semaine. Et pendant ce temps-là, en Allemagne, on envisage à partir de la mi-septembre de faire revenir les spectateurs avec une jauge qui dépendra de l'enceinte en question. Mais pour Dortmund, par exemple, on envisage que ça monte jusqu'à 20 000 spectateurs.
Oui, c'est une place sur le quart de la capacité d'accueil. C'était déjà les projets qui avaient été étudiés en Allemagne et en Italie au moment de la reprise de la compétition. Donc, mais ça se comprend. Vous savez, quand vous voyez les gens entassés sur les quais du métro, vous vous dites que s'ils sont dans un stade de 80 000 places et qu'ils sont que 20 000, ils risquent pas moins. Hein. Donc, moi, ça me paraît une mesure de bon sens que d'autoriser les gens à revenir dans les stades, avec bien sûr respect des gestes barrières et port du masque, évidemment.
Alors, pour en revenir à la question qu'on posait tout à l'heure sur les clubs et la possibilité de jouer, l'UEFA est en train un peu de prendre les devants, hein, parce que après cette Ligue des Champions qui va se terminer, il y en aura une autre saison 2020-2021. Bon, elle commencera un peu plus tard que d'habitude. Il faudra attendre la mi-octobre, mais l'UEFA est en train, en quelque sorte, en édictant, en publiant ces mesures, de mettre une pression sur le club qui recevra pour garantir au maximum que les matchs aient lieu. Par exemple, parmi ces mesures, si jamais le pays du club qui reçoit impose des restrictions aux voyageurs et des restrictions qui empêcheraient l'équipe visiteuse de venir, eh bien le club qui reçoit aurait l'obligation de trouver un terrain dans un pays neutre pour jouer le match en question. Donc ce serait sa responsabilité, et faute de trouver ce terrain-là, eh bien il aurait match perdu par forfait. Ouais. Ça vous paraît aller dans le bon sens ?
Bah après, ils ont leurs obligations à eux, leurs obligations contractuelles. Donc ils mettent la pression sur les pays, les clubs organisateurs. Et on a vu qu'il y a déjà eu certains clubs, je crois que c'était Naples d'ailleurs, qui disaient qu'ils ne voulaient pas aller jouer à Barcelone. Donc on se retrouve après dans des situations compliquées à gérer. Donc ils mettent les clubs face à leurs responsabilités. Comme on sait que ce sont les clubs les principaux bénéficiaires des compétitions de l'UEFA, puisqu'il y a quand même des énormes primes de participation à la compétition, et ben ce sera à eux de gérer ça.
L'UEFA veut de toute façon que le football reprenne, parce que derrière il y a une manne financière énorme et qui n'est pas négligeable. Ils ont même dit qu'ils sont prêts à accepter qu'une équipe qui n'a que 13 joueurs de reprendre, même des fois de mettre sur la liste des joueurs qui n'étaient pas sur la première liste. Tout ça c'est justement pour alléger, certes, mais pour que le football reprenne. Et je pense que tous les autres dirigeants doivent s'inspirer de cette décision de l'UEFA.
Voilà, en tout cas, les clubs ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus.
Un magnifique coup franc d'Éric Sicoura qui avait déjà marqué.
C'est plus qu'un pilier du Stade Bollaert, du club de Lens.
But du Racing Club de Lens grâce à son capitaine exemplaire, Seydou Keïta. Seydou Keïta qui est venu littéralement couper la trajectoire.
Daniel Morera, deuxième buteur donc le week-end dernier.
Quelle belle image, Vladis Misser qui tombe dans les bras de Guillaume Barbuz. Énormément d'émotion, le public est debout.
Joli montage hein, de Laurent Salerno.
Magnifique.
C'est comme si on y était hein, au stade Félix Mollard. Alexandre Taillez, donc comme promis pour votre livre qui s'appelle L'Opéra du Peuple, avec comme sous-titre Le Stade comme école de vie. Je le disais au tout début de l'émission, vous êtes un supporter fervent du Racing Club de Lens. Et d'abord dans votre livre, on a l'impression que vous partez en mission pour changer un peu l'image du supporter qui est souvent vu comme quelqu'un d'un petit peu simple, voire bas du front, qui se passionne pour des millionnaires en short. C'est un peu ça votre ambition, c'est de Exactement. Montrer qu'on peut être autre chose en tant que supporter.
Je crois que tous les amoureux du foot ont déjà entendu des gens leur dire que c'était l'opium du peuple, que c'était un hobby un peu simple, un peu stupide, etc. Moi, je voulais dire qu'au contraire, le football permettait d'une part de s'ouvrir sur la culture, mais aussi de s'ouvrir humainement, de faire des rencontres qu'aucun autre milieu ou très peu de milieux permettent. Moi, j'ai vu dans les stades, comme je l'explique dans mon livre, des gendarmes sauter côte à côte avec des gars qui étaient plutôt des voleurs, qui étaient plutôt voilà, des gens, voilà, des profils très variés, très différents, des profs d'histoire avec des chômeurs, des ouvriers avec... avec plutôt des intellectuels. Bref, tous les profils sociaux se réunissent dans les stades et je crois que c'est une richesse de notre passion.
Vous dites l'opium du peuple, donc le football, l'expression bien connue, l'opium du peuple. Vous avez transposé ça en opéra du peuple. Expliquez-nous.
Exactement. Ben voilà, comme je vous le disais, c'est le rassemblement des gens pour un spectacle, donc là, pour le coup, populaire, vivant, riche, qui nourrit et qui dépasse de loin le cadre du sport. Moi, par exemple, la plupart de mes meilleurs amis viennent des tribunes lensoises et partagent maintenant bien plus qu'un avis sur tel ou tel match. À Lens, nous sommes aussi tous liés par l'histoire de notre région, par nos histoires familiales, par le passé minier de notre terre, qui qui nourrit aussi tout ce peuple lensois.
Oui. Alors ça vous a permis, en suivant votre équipe, de placer des villes sur la carte. Hein. C'est comme ça que vous avez
exactement. Je crois que
découvert certaines régions très éloignées.
Exactement. Tous les amoureux du foot et notamment ceux qui se déplacent pour suivre les matchs à l'extérieur. Apprennent la carte de France de cette manière. Je crois que tous les gamins des années 90 ont découvert la Bourgogne et Guignon comme ça, alors que je crois pas que leurs camarades de classe savaient forcément situer ce genre de ville, pardon. Mm-hmm. Je crois qu'on voit beaucoup de clubs s'inspirer de l'histoire de leur région, de leur localité, des héros de leur histoire. Dans leur communication, je pense au FC Metz qui a sur son blason le Graouli, le dragon, qui en fait est le fruit d'une légende locale avec un saint local qui a tué le dragon et qui est en fait un symbole d'histoire profond de la lutte du christianisme sur le paganisme. Bref, on sort de loin du cadre du sport grâce au sport, et je crois que c'est une richesse qu'il faut mettre en avant et dont on peut être fier.
Alors l'histoire du Racing Club de Lens, bien sûr, là on est en plein pays minier, ce sont donc les mineurs de fond, les gueules noires, c'est votre histoire, c'est l'histoire de votre grand-père aussi qui a été supporter du Racing Club de Lens.
C'est ça, il y a
longtemps. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, à chaque fois qu'on est à Bollaert, alors aujourd'hui on dit Bollaert de Lelys, du nom de l'ancien maire de Lens, on chante à la mi-temps, Les Corons, la fameuse chanson de Pierre Bachelet.
C'est ça, c'est suite à son décès qu'on a pris l'habitude de chanter à la mi-temps. Avant, Les Corons étaient interprétés, mais de manière un petit peu accélérée, un peu plus dynamique. Maintenant, l'hommage a lieu à la reprise.
Voilà, on va là. Ça donne ça. Mm-hmm. Ça, c'est la version originale. Un peu plus de coffres, là. Tout un stade. 40 000 personnes.
Et pour tout vous dire, j'ai vu deux fois Pierre Bachelet en concert. Et ça, donc, quand il était encore en vie, pour vous dire à quel point ce chanteur avait un impact chez nous et à quel point on était touchés par ce qu'il racontait.
Il racontait la vie des mineurs de fond. Alors, vous avez été un supporter, mais un supporter ultra. Hein. Vous étiez dans la catégorie des ultras.
C'est ça.
Membre des Red Tigers pendant une dizaine d'années.
Oui, j'ai été membre de ce groupe pendant 9 ans. C'était un très beau parcours qui m'a beaucoup appris, qui m'a permis de découvrir certaines valeurs, de me rendre un peu viril, je dirais, à une époque où le lycée était pour moi une épreuve. J'étais en classe de lettres avec 30 filles autour de moi. C'était assez difficile à vivre. Et le foot, lui, m'a permis...
Voilà.
Ouais, c'est ça, c'était terrible. Au lycée, à Beauvais. Et donc, le foot m'a vraiment permis de m'élever, d'assumer mes responsabilités, de m'affirmer, de discuter avec des gens plus âgés, plus mûrs, de différents horizons, des gens que j'aurais jamais rencontrés sans le foot et notamment sans ce groupe. Donc voilà, je suis parti.
Mais vous l'avez quitté parce que vous trouviez qu'il y avait trop d'excès?
Non, j'ai pas quitté parce qu'il y avait trop d'excès, mais c'est que voilà, moi dans ma vie personnelle, ma vie privée, j'ai fait quelques choix, quelques changements. J'ai aussi quitté le Nord pour Paris, puis l'Anjou. Bref, je pouvais plus être aussi engagé que ce que j'étais dans le monde du foot, mais j'aurais jamais de propos négatifs sur cette période qui m'a beaucoup appris. Et voilà, c'était une étape très importante. Et voilà, maintenant, le groupe continue. Le groupe a fêté ses 25 ans l'année dernière et il est toujours aussi fidèle parce que je crois que la fidélité, en dehors de ces groupes ultra, je crois qu'à Lens, c'est la fidélité qui prime. On l'a vu malgré les années de disette que nous avons eues.
Alors on va y venir hein, sur
voilà,
ces
bon,
parce que vous avez vécu de bons moments. Et dans ce livre qui est en fait une espèce de journal de bord hein,
c'est un petit peu ça, c'est vrai.
Matchs marquants que vous avez pu suivre. Vous avez regardé un Beauvais Lens quand vous aviez seulement 11 ans avec de grands yeux d'enfant, mais par la suite Lens qui a été champion de France, rappelons-le, 1998, Coupe de la Ligue 1999, là vous étiez un petit peu jeune pour...
Exact, j'ai manqué ces moments-là.
Ça s'est joué à peu de choses. Et puis vous avez du coup vécu davantage le côté je descends en Ligue 2, je remonte en Ligue 1, je redescends en Ligue 2. C'était des années compliquées au niveau financier aussi pour le Racing Club de Lens.
Je crois qu'on a connu certaines des pires années de l'histoire du RC Lens, tout simplement, notamment la saison 2017-2018 où on a frôlé la descente sportive en national, parce qu'on a parfois eu des problèmes de sous qui nous menaçaient de rétrogradation administrative, mais là c'était vraiment sportif, c'était une catastrophe.
C'est une année qui commence par 7 défaites consécutives.
Exactement, exactement, et l'humiliation totale, la Fédération française de la loose qui parle de nous chaque semaine, c'était une catastrophe, mais c'était aussi une catastrophe en dehors des terrains avec des affaires de mœurs, des menaces de joueurs, c'était invraisemblable. On pensait que c'était vraiment un peu la fin des haricots pour nous, et Joseph Ougourlian est arrivé tel le Messie, il est arrivé à Lens et il a je crois remis les choses à leur place. Il a effectué un très très gros travail avec Arnaud Pouille notamment. Je pense qu'il a compris ce qu'était le Racing Club de Lens, l'essence même du Racing Club de Lens. D'ailleurs il a assisté à des matchs plusieurs fois dans les tribunes, dans le COP, vraiment pour s'imprégner de cette atmosphère, de cette ferveur, et je crois que ses choix sont bons.
Donc le club serait sur le bon chemin.
Bah la preuve, nous sommes remontés, c'est une preuve.
Oui, il faudra pas redescendre.
Ce que j'ai envie de demander à Alexandre Taillez, effectivement, c'est comment est-ce qu'on arrive à rester un supporter, à parcourir la France, aller à Bordeaux par exemple après s'être fait voler son portable,
à faire un match à Nancy, aller à la gare après le match pour attendre le train du petit matin.
Voilà, alors que justement le club descend en D2, que le club enchaîne les déceptions, comment est-ce qu'on arrive à rester un supporter aussi passionné pendant toutes ces années?
Vous savez, nos familles ont vécu de grandes difficultés, notamment dans les mines. Moi, mes aïeux, c'est pas mon grand-père, c'est des générations un peu antérieures. Et je crois que c'est pas au premier éboulement qu'ils s'arrêtaient, qu'ils abandonnaient. Je crois que ils restaient, ils revenaient, parce que c'était comme ça, c'était leur famille, c'était leur travail, c'était leur vie. Le Racing Club de Lens, ça représente ça pour nous. On ne peut pas renier ce club qui représente bien plus qu'un hobby, comme je l'ai expliqué, qui représente notre famille, notre passion, nos amis. On ne peut pas l'oublier, et je crois qu'on était encore chaque fois au moins 20 000 par match dans ces pires années, et parfois c'était le plaisir simplement de retrouver les copains. Alors effectivement, quand on voyait certains joueurs, Bekamenga sur le terrain tirer et tuer les pigeons, effectivement on avait un peu de mal à s'enthousiasmer par le spectacle, mais en revanche on avait nos amis qui étaient là à côté de nous. Et la fierté de chanter, voilà, on parlait des corons, mais aussi de tout le reste du répertoire qui nous parle beaucoup.
Yoro, c'est un club qui est aimé en Afrique, puisque les monuments du football africain sont passés par ce club. El Hadji Diouf, Jules Bokandé pour le Sénégal, Police Koulibaly, Seydou Keita avec 14 buts lors de sa dernière saison, qui était le capitaine de cette équipe. Vous allez au Cameroun, il y a Rigobert Song, Marc-Vivien Foué. C'est quand même les monuments du football africain sont passés par ce club. C'est un club légendaire qu'on aime aussi en Afrique pour ses supporters.
Bah, ouais. D'ailleurs,
on ajoutera à cette liste qui est très longue de joueurs africains du Racing Club de Lens, Roger Bolli, qui a fait ses meilleures saisons à Lens, les meilleures saisons de sa carrière, le malgache Hervé Arsène.
Roger Bolli, dont le fils est dans l'effectif aujourd'hui.
Très bien. Cyril Makanaki, enfin Omambique, tant d'autres.
Ce qui m'a touché aussi, c'est que le premier match qu'Alexandre Taillez a vu à Bollaert, c'était l'hommage à Marc-Vivien Foué.
2003.
Dont le nom porte le prix du meilleur joueur africain remis chaque année par RFI. Donc ça, c'est quand même, j'imagine, un moment particulier que vous avez vécu.
Alors en fait, ce jour-là, c'était l'inauguration de l'allée Marc-Vivien Foué à côté de Bollaert, parce que Lens accueillait Lyon, c'est-à-dire les deux anciens club de Marc Fouet. Donc voilà, il y avait une petite cérémonie, l'inauguration de cette allée avec la famille de Marc-Vivien Fouet. C'était très émouvant. Les deux hymnes ont été joués. Lionel Jospin était présent d'ailleurs pour l'occasion. C'était un beau moment auquel j'avais voulu assister. J'avais vu que ça allait avoir lieu grâce à France Football d'ailleurs. C'était annoncé dedans, et forcément je ne pouvais rien manquer de cette journée-là. Et Marc-Vivien Fouet est très très souvent évoqué. Il fait partie de l'équipe type des 110 ans du club qui a été élu en 2016. C'est un mec qui nous a beaucoup marqué, et je voulais aussi signaler que Seydou Keita est à mes yeux l'un, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du RC Lens, tout simplement.
Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Alexandre Taillez, pour ce livre, L'Opéra du Peuple, le stade comme école de vie. Et bonne saison à Lens, donc.
Merci beaucoup.
Première journée contre Nice, le 23 août.
Objectif maintien, et puis pourquoi pas une victoire dans le derby, enfin.
Et puis un petit Lens PSG dès la deuxième journée aussi. Ouais. Le retour
Espérons
à Bollaert.
Qu'il soit fatigué par la Ligue des Champions.
Ouais, malheureusement, a priori, il n'y aura pas trop de public dans dans les tribunes, ça ne sera pas trop autorisé. Merci messieurs, Xavier Barré, Yoro Mangara, Laurent Salerno, merci Alejandro Valente, et à bientôt.